Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Bonjour et bienvenue pour Éclairage. Éclairage aujourd'hui se penche sur le cas de la Turquie, pour ou contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, tandis que l'Union, vous le savez, vient d'accueillir 10 nouveaux États le 1er mai dernier. La Turquie, c'est une république démocratique et laïque. Elle est dirigée depuis 2 ans par l'AKP, le Parti islamique modéré de la justice et du développement. 70 millions d'habitants en Turquie, 98% de musulmans, une croissance économique forte aujourd'hui, puisqu'elle atteint près de 8% en 2003. La Turquie est aussi membre de l'OTAN depuis 1950. Alors si on remonte un peu en arrière, l'histoire de la Turquie et de l'Union européenne a déjà pas mal vécu, puisqu'en 1963, c'est la signature de l'accord d'association entre Ankara et les six, dont le général de Gaulle et Adenauer. En 1974, c'est l'invasion de Chypre. 1987, la Turquie dépose sa candidature officielle pour intégrer l'Union. En janvier 96, union douanière. Et puis, c'est en décembre 99 que le pays obtient son statut de candidat, statut qui est reconnu à Helsinki. Éclairage aujourd'hui consacré à la Turquie avec comme invité Thierry de Montbrial. Thierry de Montbrial, vous appartenez à la section générale de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 12 ans, presque jour pour jour. Vous êtes aussi bien sûr directeur fondateur du célèbre IFRI, l'Institut français des relations internationales, et puis créateur du non moins célèbre Ramsès. Le Ramsès, c'est ce rapport annuel que vous co-signez aux côtés de Philippe Moreau Desfarges. J'ajoute que vous présidez le comité éditorial du Figaro depuis 91. Aujourd'hui, donc, nous parlons de la Turquie, un sujet que vous connaissez bien, un sujet sur lequel vous venez de communiquer auprès des membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Thierry de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Alors, à la veille du sommet de l'OTAN qui se tenait à Istanbul, c'était le 28 juin dernier, le président américain George Bush a pris fait et cause pour la Turquie et son entrée dans l'Union européenne. Alors, il déclare la Turquie remplit les conditions posées par l'Union pour l'adhésion. L'Union doit entamer absolument les négociations, ces négociations qui vont conduire donc à l'adhésion pleine et entière, dit-il. Il a même qualifié la Turquie de modèle musulman fait de démocratie, d'état de droit et de liberté. Comment vous interprétez ces propos du président américain ?
Je crois qu'il y a deux choses à dire. La première, c'est que la position américaine sur la Turquie, on la connaît depuis longtemps, puisque pour les États-Unis, l'Union européenne, ils la voient comme une organisation internationale un peu comme une autre, et surtout qui doit coïncider avec l'OTAN. Donc c'est une position qui n'est donc pas nouvelle. Mais la deuxième réflexion que cette position m'inspire, c'est qu'elle est d'une grande maladresse. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois, parce que après son élection, à la fin de l'année 2000, le premier voyage que George W. Bush a effectué en Europe, c'était à Varsovie. Et il avait déjà dessiné la carte, selon lui, de l'Europe. Donc, je pense que les Américains ont une vision de l'Europe qui n'est pas la nôtre. Et ils ont, je veux dire, qu'ils voient ça, comme je le répète, comme une organisation internationale qui doit coïncider avec l'OTAN.
Mais alors justement, quels seraient les enjeux stratégiques d'avoir une Union européenne calquée sur le modèle de l'Atlantique Nord ? Pour quelle raison ? Oui, pour quelle raison on essaierait d'avoir cette espèce de cousinage entre les deux organisations ?
Mais ils l'ont toujours eu. Ça n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, peut-être, c'est la formulation plus abrupte. Précisément parce qu'on approche d'une échéance précise à la fin de l'année.
Absolument, en décembre.
La candidature de la Turquie. Mais pour eux, ils veulent une Europe qui soit à la fois suffisamment forte pour pouvoir les aider quand nécessaire, de leur point de vue, et en même temps qu'ils ne soient pas trop fortes pour ne pas leur résister quand on n'est pas d'accord. Donc il y a toujours eu là aussi une ambivalence dans l'approche américaine vis-à-vis de l'Union européenne. On veut qu'elle soit forte et on veut pas qu'elle soit trop forte. C'est quelque chose qui est une constante depuis la création de l'Union européenne, c'est-à-dire depuis le traité de Rome de 1957. Mais il faut tout de même rappeler, parce qu'ici l'histoire est importante, il faut rappeler qu'il y a un vice de fabrication dès le départ dans l'Union européenne. Je rappelle en effet que c'est en 1954, donc il y a exactement 50 ans, que le projet de communauté européenne de défense que la France avait proposé a été rejeté par notre Parlement d'ailleurs, et qu'il s'en est suivi une crise politique importante, et que l'Union européenne, qu'on appelait alors Communauté européenne, est née à partir de cet échec, mais elle est née dans le domaine économique, c'est-à-dire que sur le plan militaire, sur le plan de sécurité, dès le départ, il y a eu une séparation à la communauté, les affaires économiques, à l'OTAN, les affaires militaires.
Alors Thierry de Montbrial, vous évoquiez justement cette échéance de la fin de l'année, il y aura un sommet européen au mois de décembre où l'on va décider ou non d'ouvrir des négociations pouvant conduire à l'adhésion de la Turquie. Est-ce que vous y croyez ?
À quoi ?
Au fait qu'on ouvre ces négociations, est-ce qu'on aura un feu vert pour avancer
sur ce... À la date d'aujourd'hui, ça me paraît extrêmement vraisemblable.
Les différents critères ont été rédigés à Copenhague en 1993, des critères d'adhésion à l'Union européenne. Aujourd'hui, si on devait lister les critères qui font défaut à la Turquie, lesquels vous verriez en priorité ?
Non, je crois qu'il faut... Je suis pas en charge de la rédaction du rapport. Il y a un travail énorme qui est fait par la Commission européenne. Le commissaire qui est responsable de l'élargissement est un Allemand qui s'appelle Verheugen. Et ce commissaire va remettre, ce sera d'ailleurs la commission, hein, parce que le commissaire et ses services préparent le rapport, et ensuite ce rapport, il sera endossé par la commission. Et donc la Commission européenne va faire, au mois d'octobre, des propositions, et sur la base d'une analyse extrêmement approfondie, et elle dira si oui ou non les critères de Copenhague sont remplis et si par conséquent elle est en mesure de recommander ou non le début des négociations. C'est exactement de cela dont il s'agit. Bon, moi je ne suis pas inspecteur.
Vous êtes quand même un fin connaisseur de la question internationale, ce qui vous permet d'avoir une...
Enfin, je ne remplace pas des escouades de chercheurs qui sont là depuis des mois et qui travaillent sur le terrain, etc. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que tous les gens qui suivent en effet ces questions reconnaissent que la Turquie a fait des progrès extraordinaires, hein, énormes, dans la direction de ces fameux critères et qu'elle a modifié sa constitution, ses lois, et encore une fois sur la base d'enquêtes extrêmement précises avec des inspecteurs qui sont là et qui vont là, qui critiquent, qui envoient leur... C'est comme si nous avions en France des centaines et des centaines d'étrangers qui étaient là et critiquaient nos propres lois et textes réglementaires aux pratiques, aux coutumes tous les jours. C'est une intrusion dans les affaires intérieures dont je dois dire que je suis stupéfait qu'il l'accepte à ce point. Bon, alors je crois que les spécialistes de ces questions, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur le terrain, disent que le travail accompli est énorme et donc le pronostic qui est généralement fait aujourd'hui, c'est que le rapport de la Commission devrait être positif.
Plutôt favorable.
Maintenant, peut-être qu'il exprimera des réserves sur certains points précis, je ne peux pas vous le dire.
Alors, au mois de janvier dernier, il y a eu un événement historique. Le président Romano Prodi, président de la Commission européenne qui est encore en exercice, s'est rendu à Ankara. C'était la première visite d'un président de Commission européenne depuis 40 ans, depuis la signature de l'accord d'association entre les Turcs et le marché commun. Alors Romano Prodi rentre d'Ankara, il dit voilà, les Turcs se sont nettement rapprochés de l'Union, la vitesse est remarquable, la direction est bonne, mais en même temps, la Turquie a encore beaucoup à faire. Il y a un côté un peu bon élève mais doit progresser, c'est peut-être pas évident d'y voir très clair dans ses propos. Comment vous avez ressenti cette visite ? Est-ce que c'était une avancée ou finalement une simple démarche diplomatique pour calmer les esprits ?
Alors, il faut resituer tout ça dans le temps. D'abord, dans le débat actuel, qui est un débat extrêmement passionnel, en particulier
en France.
Mais
ça, on va y venir, bien sûr.
Confondent les choses. La plupart des gens, y compris cultivés, confondent les échéances. Ce dont il s'agit aujourd'hui, ce n'est pas de faire rentrer la Turquie dans l'Union européenne.
Enfin, c'est bien la question qui est posée, malgré tout, à terme. Aujourd'hui, il y a les pros et les anti.
Je n'en dis combien pas, mais cette question-là, ça fait 40 ans qu'elle est posée, c'est pas depuis hier. Aujourd'hui, la question véritable dont on discute, l'échéance, c'est le début ou non des négociations. Être pro ou anti, ça fait 40 ans qu'on en discute et je vais vous rappeler, dès le traité de 1963, qui est un traité d'association entre la communauté à ce moment-là européenne et la Turquie, il se trouve que les négociateurs de l'époque ont accepté de signer un document dans lequel il était dit qu'à terme, il y avait l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Bon. Ensuite, tous les diplomates, année après année, en particulier les 10 dernières années, ont répété ça à peu près 2 fois par an, selon les échéances, en particulier depuis que le Conseil européen existe. Alors, moi, je suis surpris de voir que les gens semblent découvrir le problème aujourd'hui, alors que le problème se pose depuis 40 ans. Alors, être pour ou contre la Turquie, chacun peut l'être en fonction de sa vision de l'Europe, on y reviendra peut-être.
Absolument.
Mais le problème n'est pas nouveau, un problème très ancien. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est l'ouverture ou non de négociations sur la base de critères que l'on peut contester. Mais il se trouve que diplomatiquement, c'est nous-mêmes qui les avons fixés. Donc, je crois que le calendrier, de ce point de vue-là, il est précis. La diplomatie a ses règles. Et quand on a voté, adopté un certain nombre de règles et qu'on ne joue pas selon ces règles, on s'expose à des difficultés. Et naturellement, on peut toujours dire, tirer un trait et refuser, rejeter ce que l'on a décidé avant. Alors, vous me parlez de Prodi. Moi, je vais vous dire la chose suivante, c'est que si les négociations commencent, je dis bien si les négociations commencent, alors pour qu'elles commencent, il faudrait d'abord que le rapport soit favorable,
d'accord.
Premier temps, mm-hmm. Et deuxième temps qu'au mois de décembre, les chefs d'État et de gouvernement, sur la base de ce rapport, donnent leur feu vert pour le début des négociations. À partir de ce moment-là, tout le monde, je veux dire les spécialistes, y compris d'ailleurs les Turcs, bien entendu, savent que ces négociations seront extrêmement longues. Extrêmement longues.
Combien d'années ? 10 ans, 15 ans ?
Minimum de 10 ans.
Voilà.
Et les négociations d'adhésion, c'est selon des critères, là encore, qui sont extrêmement précis. Puisqu'il faut adhérer à tout l'acquis communautaire. Ça se répartit en 31 chapitres et chacun de ces chapitres comprend une multitude de détails extrêmement précis. Donc ça veut dire que la tâche sera ou restera tout à fait considérable. Et moi, je ne peux absolument pas vous dire, à supposer que ces négociations commencent, si elles arriveront effectivement jusqu'au bout. Parce que pour qu'elles arrivent jusqu'à leur terme, il faut que les Turcs eux-mêmes acceptent d'aller encore beaucoup plus loin dans la modification de leurs pratiques, de leurs institutions, etc., etc. Ils le souhaitent ardemment. Iront-ils jusqu'au bout ? Je n'en sais rien.
Cyril Montbrial vient d'accueillir le 1er mai 10 nouveaux pays. La Roumanie, la Bulgarie, la Croatie sont dans les starting blocks pour intégrer l'Union européenne. Tous ces pays ne sont pas forcément particulièrement avancés dans les quantités de domaines. Et la Turquie, on a l'impression que c'est vraiment l'épine qu'on n'arrive pas à soigner. Qu'est-ce qui se passe pour que la Turquie soit aujourd'hui un sujet de discorde, de conflit, un sujet de polémique, un sujet presque intellectuel ?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que depuis la chute de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin, puis la chute de l'Union soviétique, nous sommes livrés à un élargissement forcené qui était peut-être inévitable sur le plan politique, mais qui est en tout cas extrêmement périlleux, puisque nous sommes passés non pas de 15 à 25, comme on le dit parfois, mais en réalité de 12 à potentiellement, comme vous venez de le dire, 27 ou 28, puisque nous étions 12 en 1990-91. Aujourd'hui, nous sommes 25, et comme vous venez de le dire, il y a la Bulgarie et la Roumanie qui devraient rentrer en 2007, et puis il y a encore la Croatie qui se profile à l'horizon, sans parler de la Macédoine et autres. Donc cet élargissement dans un laps de temps aussi court pose problème. C'est un problème de digestion, hein, tout d'abord. C'est un problème de digestion. D'autre part, nous avons l'adaptation de nos institutions. Alors le dernier Conseil européen vient de se mettre d'accord sur un projet de constitution. Encore faut-il que cette constitution soit ratifiée, et ratifiée par 25 États membres.
Ce qui n'est pas gagné.
La probabilité, en effet, pour qu'il y ait au moins un, sinon plusieurs États votent négativement, y compris d'ailleurs la France, ce que je n'exclurais pas, cette probabilité, surtout après d'ailleurs les récentes prises de position d'un homme comme Laurent Fabius, et donc les divisions de politique intérieure, avec comme toujours l'interférence avec des considérations de politique intérieure. Donc tout ça veut dire que la partie n'est pas gagnée. Si jamais la Constitution n'est pas ratifiée, chacun comprend que nous allons nous trouver en difficulté, mais en difficulté pour le fonctionnement même pratique de cette union élargie. Par conséquent, chacun ressent plus ou moins clairement que la continuer d'accroître, d'élargir l'Union européenne, alors même qu'on n'a pas achevé de digérer l'énorme accroissement de ces dernières années, c'est un exercice extrêmement périlleux. Alors ça, c'est un aspect. L'autre aspect est évidemment spécifique à la Turquie, puisque la Turquie a vocation, étant donné les données démographiques, à devenir à terme, serait, si elle entrait dans l'Union européenne, le premier pays par la population.
Il faut rappeler que la Turquie a 70 millions d'habitants. Alors, 70 millions d'habitants, c'est le nombre global des 10 pays qui ont rejoint l'Union européenne le 1er mai. Donc effectivement, ce serait un choc démographique.
Certes, mais elle est encore inférieure en population à l'Allemagne. Mais en revanche, étant donné le déclin démographique en Allemagne et au contraire le taux de natalité en Turquie, il est vraisemblable qu'au bout de 15 ou 20 ans, la Turquie deviendrait le premier pays démographiquement. D'autre part, il y a un problème économique qui est que la Turquie, même si elle a fait des progrès économiques considérables au cours des 15 ou 20 dernières années, est un pays qui est tout de même derrière les pays de l'Union européenne. C'est un argument d'ailleurs qu'il faut relativiser parce que la Grèce, au moment de son adhésion, sans parler de l'Espagne et du Portugal, se trouvait également dans un état relativement arriéré par rapport au cœur de la communauté, mais c'est une préoccupation, surtout avec un pays de cette dimension démographique. Et puis enfin, il y a le point évidemment qui est celui qui déchaîne le plus les passions, qui est le point qu'on va appeler civilisationnel ou culturel. Et un certain nombre de gens ont les plus grandes difficultés à imaginer qu'un pays musulman puisse rentrer dans l'Union européenne. Et là, nous avons un problème, je vous dis, qui est largement passionnel. Comment définit-on l'Europe ? Et vous remarquerez que chacun donne sa définition de l'Europe. Il se trouve simplement que dans la pratique politique de la constitution de l'Union européenne, les seuls critères qui aient jamais été formulés, qui ont jamais fait l'objet d'une unanimité sur le plan de la politique réelle et sur le plan diplomatique, par conséquent, ce sont les fameux critères de Copenhague. Et j'ajouterai une remarque, c'est que nous, Français, nous nous disons attachés à la laïcité, mais en réalité, nous ne sommes pas parfaitement cohérents avec nous-mêmes. Parce que si nous étions cohérents avec nous-mêmes, le fait d'être musulmans ne devrait pas nous gêner. Et comme le dit Amin Malouf dans un petit livre, un petit chef-d'œuvre qui s'appelle « Les identités meurtrières », comment les Français qui se disent laïcs parlent-ils aussi fréquemment, comment peuvent-ils parler aussi fréquemment de Français musulmans, entre guillemets, on parle souvent des Français musulmans.
Absolument.
Donc il y a un certain nombre de contradictions, mais peu importe, si vous voulez, la réalité, c'est qu'en effet, tout cela suscite des passions. Il y a un débat qui arrive maintenant, parce que bien que le sujet soit sur la table depuis 40 ans, il n'a jamais encore véritablement eu lieu.
Thierry de Montbrial, vous restez avec nous aujourd'hui. Dans cet éclairage, nous évoquons le cas de la Turquie.
Canal Académie.
Suite de cet éclairage avec Thierry de Montbrial, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Donc on évoque aujourd'hui la question turque, pour ou contre la Turquie dans l'Europe. Juste avant la pause, Thierry de Montbrial, vous parliez des questions culturelles et évidemment du sujet de la religion qui est très fort et qui déchaîne les passions. Les gens qui sont hostiles à l'entrée de la Turquie dans l'Europe disent que l'Europe aujourd'hui a une logique judéo-chrétienne et qu'effectivement la Turquie n'a pas sa place dans l'Europe en raison de la religion musulmane qui est ultra majoritaire, 95% de musulmans en Turquie. Est-ce que cette question purement religieuse pourrait être un obstacle si la Turquie entrait dans l'Europe à son intégration ?
D'abord, je crois que si l'obstacle a lieu, ce sera plutôt avant son entrée, parce que si on reprend encore une fois la chaîne des événements, il faudrait d'abord que les négociations commencent, ensuite il faudrait qu'elles aboutissent, et comme nous le disions précédemment, cela veut dire un minimum de 10 ans. Et puis, après cela, il faudrait qu'il y ait donc un traité signé, si ça aboutit, et puis ensuite que ce soit ratifié, et que ce soit ratifié par l'unanimité des États membres au moment où ça se passera, c'est-à-dire un nombre qui sera vraisemblablement 28, peut-être plus. S'il y a des pays qui, à ce moment-là, dans 10-15 ans, sont radicalement opposés à l'entrée de la Turquie pour quelque raison que ce soit, sachant encore une fois qu'entre-temps, il y aurait eu un processus, donc il y aurait eu encore toutes sortes d'évolutions internes sur toutes sortes de sujets, eh bien à ce moment-là, il y aura un pays qui votera non et la Turquie n'entrera pas. Donc ça veut dire que pour que la Turquie rentre, il faudrait que non seulement tout le processus de négociation ait abouti, mais que tous les pays membres de l'Union à ce moment-là aient voté positivement. Vous voyez, ça fait quand même énormément de conditions. Alors à ce moment-là, je ne vois pas, si on a franchi tellement d'obstacles, je ne vois pas pourquoi... ça ne marcherait pas, hein, une fois que tous ces obstacles, par hypothèse, auraient été franchis. Alors, je crois aussi qu'il faut dire une, faut faire une remarque que beaucoup de nos concitoyens français ou européens ne font peut-être pas suffisamment, c'est que l'Union européenne, c'est certes une nouvelle sorte d'unité politique, mais ce n'est pas un État-nation. Et en particulier, ceux qui craignent les grandes migrations à l'intérieur de l'Europe se trompent. Regardez par exemple la situation de l'Espagne et du Portugal. Moi, quand j'étais jeune, les employés de maison, c'était des Espagnols et des Portugais. Aujourd'hui, ce sont plutôt des Marocains ou des Marocaines, par exemple. Pourquoi ? Parce que, avec le développement économique qui a été largement accéléré par l'adhésion à l'Union européenne, les Espagnols et les Turcs se trouvent à peu près alignés sur les autres en termes de niveau de vie. Et aujourd'hui, vous remarquerez que y a beaucoup moins d'Espagnols et de Portugais en France, par exemple, qu'il n'y en avait avant l'adhésion à l'Union européenne. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que, en ce qui concerne la Turquie, ma conviction profonde, c'est que si la Turquie continue son développement économique, ce qui sera le cas, je pense, en toute hypothèse, et si elle devait adhérer à l'Union européenne au terme de ce processus complexe que j'ai décrit, eh bien, il est vraisemblable qu'il y aurait beaucoup moins de Turcs à l'ex. Parce que les gens ont envie de vivre chez eux. Quand en général, les gens ont envie de vivre chez eux. Donc, je crois qu'on se trompe dans cette peur de l'invasion. Je reprends ici le titre du dernier livre, je crois, de Jean-Baptiste Durosel, qui était mon confrère à l'Académie des sciences morales et politiques, un très grand historien. C'est le dernier livre qu'il a écrit, s'appelait L'invasion, par allusion justement à ces phénomènes démocratiques. Alors, l'idée que les Turcs envahiraient l'Europe du fait de la libre circulation en cas d'adhésion me paraît être une erreur profonde, voyez-vous. Donc, je pense que y a tellement de conditions pour arriver à l'adhésion que si elles étaient toutes remplies, je crois que la question de l'intégration ne se poserait pas en termes particulièrement complexes. Oui. La complexité, c'est avant.
On a évoqué la question religieuse, on a évoqué cette peur de l'immigration. Reste une question géographique. La Turquie, vous la mettriez où sur une carte ? En Europe, en Orient ? Valéry Giscard d'Estaing disait « la Turquie est en Orient ». Alors, c'est un problème cornélien, il y a le Bosphore au milieu. Qu'est-ce qu'on fait de la Turquie ? Comment on la positionne ?
Écoutez, j'ai théorisé beaucoup sur ce genre de sujet, en particulier dans un livre que j'ai eu l'occasion de commenter ici, qui s'appelle « L'action et le système du monde », publié par les presses universitaires de France. Et je définis la géopolitique comme étant la discipline relative qui concerne les idéologies relatives au territoire. Et quand on fait des cartes et des regroupements, et notamment des regroupements régionaux, on fait de la géopolitique en ce sens-là. C'est-à-dire que c'est véritablement une façon d'interpréter les choses qui reposent sur toute une idéologie. J'emploie ici le mot idéologie dans son acception la plus noble. D'ailleurs, idéologie, Destruc de Tracy, hein, c'est la science relative aux idées. Et c'est d'une certaine manière de voir les choses. Bon, l'Europe, à la fin du 19e siècle, pour la plupart des géographes, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, elle était définie par l'Oural, le Caucase, les barrières du Caucase, et puis les fameux détroits, Bosphore et Dardanelles. Mais maintenant, quand on regarde les choses de près, pourquoi est-ce que l'Oural, les gens depuis longtemps savent que l'Oural est une barrière tout à fait artificielle, en fait, ne sait pas rien du tout. Et de même, le Caucase et les ossètes du Nord qui seraient en Russie, les ossètes du Sud en Asie, et pourquoi est-ce qu'Istanbul serait en Europe, etc. Donc, je crois qu'on a plusieurs découpages possibles, et je fais souvent devant mes étudiants l'exercice consistant à leur montrer justement la variation à travers le temps des regroupements ou des géographiques de la planète. Donc je crois que la géographie de ce point de vue-là ne permet pas de trancher, pas plus d'ailleurs que l'histoire, car regardez, je pense par exemple à Chateaubriand dans son itinéraire de Paris à Jérusalem, quand il arrive à Trieste, il dit « ici commence l'Orient ». Bon, et Chypre, que certains de mes confrères de l'Académie situent en Europe, Chypre est très largement orientale. Et quand je me trouve en Grèce...
Et Chypre fait partie des deux îles qui ont intégré l'Union européenne le 1er mai.
Absolument. Et d'ailleurs, on a commis l'erreur de le faire avant d'avoir réglé la question chypriot-turque, ce qui a été une erreur majeure à mon sens. Et je rappelle que le référendum récent a été rejeté, préparé sous les auspices de l'ONU, a été rejeté non pas par les chypriotes turcs, mais par les chypriotes grecs. Alors, quand on est en Grèce, la Grèce a été occupée pendant près de 5 siècles par l'Empire ottoman, et il y a un aspect oriental très fort qui existe toujours en Grèce. Et puis la différence en Europe entre la chrétienté occidentale, la chrétienté orientale est une différence culturelle majeure. L'orthodoxie, c'est certes, bien entendu, la chrétienté, qui se considère même comme la chrétienté avec un grand C, mais les différences culturelles sont absolument énormes. Donc je crois que les considérations culturelles sont importantes, mais elles ne sont pas absolument déterminantes, pas plus que les considérations géographiques. Et c'est pourquoi on a essayé, dans la bonne tradition française des Lumières, de définir l'Europe à partir de critères aussi objectifs que possible et que ce sont des critères universels. Mmh. Et les critères de Copenhague s'inspirent de ce genre de considérations. Et c'est pour ça qu'il est très difficile de dire après que ceux qui, après avoir affirmé nous-mêmes le fait de remplir ces critères, c'était ce qu'il fallait pour pouvoir commencer des négociations, de dire après, ah ben finalement, non, ça ne marche pas, et de faire intervenir d'autres considérations.
Alors, vous le disiez justement, les critères de Copenhague, rédigés en 1993, sont particulièrement objectifs, et pourtant, on a un débat qui oppose des personnalités de renom, des décideurs. On va trouver des gens comme Claude Alleg, François Bayrou, qui disent que la Turquie diluerait l'Europe. Et puis on va trouver des gens comme Louis Schweitzer, le patron de Renault, qui a maintenant pris la tête de la cellule turque du MEDEF. Donc on a des gens d'un calibre, je dirais, à peu près comparable intellectuellement, des gens de qualité, des gens qui connaissent les choses et qui pourtant arrivent à avoir des positions totalement opposées sur ce sujet, sur un tel sujet. Comment se fait-il, si on part de critères objectifs, qu'on puisse se retrouver avec une population intellectuelle totalement déchirée autour de cette question?
Bien, l'exemple du MEDEF est intéressant parce que, en général, les gens des affaires, les milieux des affaires ont une conception qui est une conception extrêmement pragmatique. Et ils ne refont pas l'histoire du monde pour dire si c'est Charlemagne qui doit servir de référence ou les monastères du XIIe siècle pour définir l'Europe. Et ils ne considèrent pas que les croisades soient la référence indispensable pour définir la carte du monde de demain. Mais ce qu'il y a, c'est que la plupart des personnalités dans vos parler ne se posaient pas la question avant. Parce qu'ils ne suivent pas en détail la vie des relations internationales.
Alors c'est de l'opportunisme politique pour certains, le fait de prendre position de manière aussi tranchée.
Parce qu'il se trouve que dans la vie des peuples, il y a certains moments où il y a des sujets où c'est comme les volcans qui sommeillent, et puis brusquement il y a quelque chose qui se déclenche. Il est certain que, comme je vous le disais au début de notre entretien, la question turque est posée depuis exactement 1963. Simplement, c'était une affaire de spécialistes parce que les gens ne suivaient pas les choses en détail. Aujourd'hui, ils s'aperçoivent que ça devient plus proche puisqu'il est question d'un début effectif de négociation. Et puis maintenant que l'Union européenne s'est énormément développée et étendue vers l'Est, ça rentre, si vous voulez, dans le champ du possible. Par conséquent, il y a un débat. Et moi, je voudrais dire que le fait qu'il y ait un débat est une excellente chose, parce que le fait d'être en démocratie, la démocratie, c'est d'abord la possibilité de débattre et de faire débattre des gens qui, en effet, ont des points de vue différents, des points de vue complémentaires. Et puis ensuite, il y a des procédures qui sont des procédures démocratiques de nos constitutions, etc., qui permettent de trancher. La chose la seule que je trouve inadmissible, c'est l'intolérance. Et moi, personnellement, je suis attaché à la tolérance comme l'une des vertus les plus cardinales. Et je suis parfois un peu navré quand je vois sur ce genre de sujet, comme sur d'autres, les gens s'enflammer, s'insulter, s'injurier.
On ne s'est jamais enflammé, injurié sur l'un des 10 pays qui vient de... d'intégrer l'Union européenne. Donc là, il y a quand même.
Attendez, non seulement ça, mais étant donné que mon activité professionnelle, si je puis dire principale, me conduit à suivre ces choses-là de très près, je me suis aperçu que beaucoup des gens qui aujourd'hui se passionnent sur la Turquie n'ont même pas remarqué que le dernier conseil ou l'avant-dernier conseil européen a donné son feu vert au début de négociation d'adhésion de la Croatie, par exemple. Et la Croatie, il n'y a pas si longtemps encore que M. Tudjman, qui n'avait rien à envier à M. Milosevic, en était le président. Donc, je crois qu'il faut regarder toutes les facettes de ce problème, les regarder avec sérieux et sérénité. Et il faut voir si on ne s'est pas encore suffisamment interrogé sur le projet européen, eh bien, c'est peut-être l'occasion de le faire. Parce que, voyez-vous, à la racine de tout ce débat, il y a le fait que nous faisons empiriquement la construction européenne, mais qu'il n'y a jamais eu d'accord entre les pays membres, anciens ou nouveaux, sur ce en quoi consistait la construction européenne. Certains disent que l'Europe est liée à la chrétienté, d'autres à la post-chrétienté. Etc. Bon, on peut dire tout ce qu'on voudra, mais ce sont des opinions personnelles, ce sont des opinions individuelles. Il n'y a jamais eu, dans le contrat qui unit les pays membres de l'Union européenne, il n'y a jamais eu, noir sur blanc, une explicitation ni géographique, ni culturelle, ni historique, ni religieuse. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que dans le débat le plus récent, c'est-à-dire sur la Constitution, c'est un pays comme la France, pas le seul d'ailleurs, mais qui s'est opposé jusqu'au bout à la référence aux racines chrétiennes de l'Europe. C'est la France. Et la France qui est très attachée au principe de laïcité. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu contradictoire à, d'un côté, mettre tellement l'accent, moi personnellement, ça ne m'aurait pas du tout choqué, bien au contraire, qu'on fasse explicitement référence aux racines chrétiennes de l'Europe. Et moi, je suis parfois étonné de voir que ce sont les mêmes qui se déclarent les plus farouchement attachés au principe de laïcité, qui en même temps expliquent que la Turquie n'a pas sa place parce qu'elle est musulmane. Alors, il faudrait savoir, voyez-vous, il y a une sorte de contradiction là-dedans.
Dernière question, Thierry de Montbrial. Romano Prodi, lorsqu'il s'est rendu à Ankara au mois de janvier, a souligné la question chypriote comme une question essentielle. Selon vous, est-ce que le règlement de cette question chypriote, occupée depuis quand même 30 ans maintenant, est un point essentiel pour débloquer la situation?
Écoutez, les Grecs, les Chypriotes grecs et les Grecs de l'État grec ont empoché ce qu'ils voulaient. Bon, maintenant, il aurait fallu, comme je vous le disais tout à l'heure, il aurait fallu mettre comme condition préalable à l'entrée de Chypre le règlement de la question chypriote-turque. Maintenant que ça n'a pas été fait, je crois que c'est extrêmement difficile et je crois que tout le monde est dans un embarras immense. Je pense que là, nous avons une situation dont, à ma connaissance, pour le moment tout au moins, personne ne voit pas très bien l'issue.
Thierry de Montbrial, je vous remercie d'avoir été avec moi.
Merci.